Avant d'aller plus loin, de commencer la prédication, je étais perturbé par un mot que j'ai dans ma liturgie. J'ai bien écrit formalité, mais il me semble que vous avez remarqué qu'il ne s'agit pas de formalité, comme vous parlez de formalité administrative, mais de formalisme. Donc voilà, entendez bien quand j'ai dit ne pas donc nous contenter de notre religiosité, de notre formalisme au lieu de formalité. Voilà. Là, nous pouvons y aller à notre méditation ce matin. Voilà, Jésus quitte la Judée. Et entre la tentation et son départ, donc ici vers le nord, Jésus était en Judée, on pense qu'il s'est écoulé un an, que Matthieu, Marc et Luc passent. Mais ces détails, nous les avons dans l'évangile de l'apôtre Jean. Donc pendant une année, silence total dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Et là, donc Jésus a appris que Jean avait été livré, donc il se retire dans la Galilée. Et en lisant ce premier verset, l'on est en droit de se demander si Dieu est toujours là, si Dieu se préoccupe de ses messagers. Merci. Aurait-il épuisé ses ressources ou il a fini de se soucier de ses envoyés? Voyons, Jean-Baptiste a été arrêté et Jésus s'enfuit. C'est ce qu'on peut dire. S'enfuit, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe. Mais on sait que plus d'une fois, Jésus évoquait l'hostilité des hommes envers le message de Dieu. C'est lui quand même qui a dit à ses disciples, si on vous persécute dans une ville, allez dans une autre. Prudence. Et il a fini, il a été victorieux par rapport à la tentation de Satan. Jette-toi d'en haut de cette falaise, du temple. Pourquoi faire tenter Dieu? Peut-être pour Jésus, rester en Judée, c'est une espèce de tentation. Le danger est omniprésent. Jean est emprisonné. Prudence oblige. Il va en Galilée. C'est la première impression. Et ce n'est pas tout à fait faux. Parce que Jésus n'est pas un Zorro ni un... Qui encore ? Donc qui se sent bien, se met à l'aise dans la foule, dans ses adversaires et qui provoque. Non, Jésus n'est pas un provocateur. Son heure n'est pas venue et il faut qu'il change de lieu de résidence ou de lieu pour faire son ministère. Lui, il a dit aussi, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battez de verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Voilà, Jésus ne fait pas d'illusions. On ne les aime pas ces prophètes qui bousculent nos vieilles habitudes. Mais voilà, est-ce que Jésus fuyait? La suite de la lecture nous éclaire un peu plus sur ce sujet. Donc Jean prêchait donc du côté est de Judée, non loin du Jourdain, donc dans le sud de la Palestine. Hérode Antipas l'a fait mettre en prison. car il le critiquait ouvertement pour sa relation avec la femme de son frère Philippe. À son arrestation, Jésus s'en va en Galilée. Voilà. Donc, maintes fois, donc, ses adversaires cherchent à l'arrêter, mais personne ne mettait la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà. Et à Nazareth, la ville de son enfance, il échappe encore à une tentative d'assassinat, de meurtre. On voulait le jeter du haut d'une falaise, mais voilà, il est passé à travers la foule et voilà, il est parti. Donc voilà, notre texte commence ici. Il quitte donc cette ville, verset 13, et s'installe à Capernaum, donc 35 kilomètres au nord, près de la mer de Galilée, donc en Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali, deux des 12 tribus d'Israël. Et ce changement de domicile, l'évangéliste l'interprète comme un accomplissement de la prophétie annoncée par Ésaïe. Ésaïe 9, hein, 1, 12, 1 à 2. Donc Jésus ne s'est pas enfui, mais il accomplit les Écritures. Et c'est très intéressant aussi pour notre vie d'église, notre vie chrétienne. Donc, si les temps passés ont couvert d'opprobre, dit le prophète Ésaïe, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Je vous fais remarquer que Nazareth ne fait pas partie du pays de Zabulon et de Nephtali. Nazareth ne fait pas partie de Zabulon et de Nephtali. Et ce peuple, maintenant, là où Jésus va, donc à Capernaum et les environs, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière, pardon, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Donc je disais, Capernaum, ce déplacement, ce lieu de résidence à Capernaum, c'est l'accomplissement d'une prophétie messianique. Vous vous souvenez, Jésus ressuscité explique aux disciples d'Emmaüs, à partir de l'Ancien Testament, ce qui s'est passé le concernant, en leur rappelant qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24. Absolument tout doit être accompli, y compris donc l'aménagement à Capernaum et la conséquence bénéfique qui en découlera. L'Ancien Testament compte plus de 300 prophéties qui ont été accomplies en Jésus. Certaines sont si précises que des sceptiques ont prétendu qu'elles avaient été introduites dans les manuscrits par les chrétiens. Mais argument réfuté par la découverte des manuscrits de Qumran, dont celui du prophète Ésaïe, qui date de plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que, quelle que soit l'attitude du monde vis-à-vis de Jésus et de la Bible, que les bancs des églises restent implacablement vides, pas comme ici, les prophéties sur le Fils de Dieu, ou celles qu'il a lui-même formulées concernant l'avenir de ce monde, se réaliseront tôt ou tard, comme le sont déjà celles qui annonçaient sa naissance à Bethléem, par exemple, sa fuite en Égypte, son enfance à Nazareth, les circonstances de sa mort, sa résurrection, et maintenant le changement de domicile à Capernaum. Nous ne devons donc pas mettre en doute les prophéties, la parole de Dieu. Tiens, si la Bible promet, c'est Jésus qui parle ici, celui qui a le Fils a la vie, c'est une certitude. S'il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la vie, aura la lumière de la vie », il en sera ainsi. Il en sera ainsi car Dieu ne peut pas mentir. Il tient toujours ses promesses. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui, c'est Paul qui parle. Le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1er, 19-20. Dieu donc ne revient jamais sur ses promesses, ni ne les change. Il a dit, « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Les promesses divines n'échouent jamais, bien-aimés. Il a dit, et c'est dans Josué 23, « Reconnaissez de tout votre cœur et de votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Josué 23, verset 14. Mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre au sérieux les avertissements de la Bible. Celui qui a le Fils a la vie. Oui, c'est une promesse que Dieu va tenir. Mais la suite, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Est-ce que j'ai le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il représente pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour le monde? Revenons à Capernaum. La lumière est venue éclairer cette ville et tout le pays de Zabulon et de Nephtali. C'est à Capernaum que Jésus faisait plus de miracles qu'ailleurs. C'est là qu'il guérit, par exemple, de la paralysie le serviteur du centurion, de la fièvre la belle-mère de Pierre, le démoniaque, le paralytique porté par les quatre hommes, le fils d'un officier royal, tout ça, Capernaum, et un grand nombre d'autres malades. Et même le discours que rapporte Jean dans son évangile Jean 6, après le miracle des pains de poisson, a été prononcé dans la synagogue de Capernaum, ou peut-être ailleurs dans la ville. Donc c'est à Capernaum aussi que Jésus appelle Matthieu. Donc Capernaum, voyait donc une source de lumière. Franchement, Capernaum a été gâté. Mais, il y a un mais malgré l'enseignement de Jésus, malgré ses œuvres, malgré l'appel au retour à Dieu, les habitants de Capernaum ne se repentent pas. Dans le prologue de Jean 1, 11, nous lisons « La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » À l'époque de notre Seigneur, la Galilée comptait 4 cités importantes. Chorazin, Bethsaïda, Capernaum et Tibériade. Jésus a prononcé des malédictions sur les 3 premières, donc sur Bethsaïda, Capernaum et Chorazin, mais pas sur Tibériade. Parce que dans ces 3 villes avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Mais elles ne s'étaient pas repenties. Donc, elles ne sont pas retournées à Dieu. Ils n'ont pas changé d'attitude. La destruction de Chorazin et de Bethsaïda a été si complète qu'on ne retrouve plus le site exact de ces villes. Seul Tibériade subsiste. Et cet accomplissement remarquable de la prophétie est une preuve encore supplémentaire de l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible et que nous devrions prendre vraiment au sérieux les avertissements qui s'y trouvent. Des fouilles, par exemple, entreprises dans une ville appelée Tel Hum, située sur les ruines de Capernaum, eh bien, ces fouilles ont révélé que le site a été occupé continuellement du 1er au 7e siècle Et puis, toute occupation a brusquement cessé. Et on rapporte qu'en 748, après Jésus, un tremblement de terre met fin à la ville et constitue en même temps l'accomplissement de la parole de Jésus. Il a dit, « Et toi, Capernaum, Jésus l'a dit, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Non, non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Deuxième point donc de cette méditation, de ce moment. Et nous avons déjà évoqué ce deuxième point, parce qu'il s'agit justement de la parole de cet appel, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est aussi le message de Jean-Baptiste, c'est également la conclusion de Pierre en acte de 38. « Repentez-vous. » Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Et Paul, qu'est-ce qu'il a dit aux Athéniens idolâtres ? Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Les temps passés dans les ténèbres, justement, où les hommes étaient ignorants, ne savaient rien de lui, mais ordonne maintenant aux hommes, en tout lieu, de se repentir. Se repentir, on n'aime pas trop ce mot. Si vous voulez, changer d'attitude, changer de cap, revenir à Dieu, redevenir enfant de lumière, tout simplement. Redevenir enfant selon l'image de Dieu et vivre comme tel. Autrefois, dit Paul, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et justement, en parlant de lumière, Jésus a dit, est-ce qu'on prend la lumière pour la mettre sous le lit? Et voilà la mission de l'Église maintenant. Nous avons reçu cette lumière de Dieu qui nous éclaire, qui fait de nous des enfants de Dieu. À partir du moment où nous recevons cette lumière, à notre tour, nous brillons de cette lumière vers le monde. Il faut que notre lumière brille. La suite du texte, nous ne l'avons pas lu, mais Jésus appelle les disciples qu'il enverra plus tard dans le monde. Bien-aimés en Christ, ne soyons pas comme Capernaum qui a refusé cet amour de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu, dans un autre point de l'évangile, a partagé, distribué les talents, il y en a qui avaient reçu 10 ou 5 ou 2 ou 1. Tout le monde, sauf le dernier qui avait reçu 1, a produit à peu près le double de ce qu'il avait reçu. Et vous savez, le problème avec le dernier, ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il donne, c'est vrai qu'il veut quelque chose en retour. Mais le problème de celui qui avait reçu 1, et le jugement est tombé, Jésus dit, prenez ce qu'il a, parce que celui qui n'a pas, eh bien, on prend ce qu'il a. Mais le problème de celui-là, je pense, c'est parce qu'il a méprisé le don de Dieu, l'amour de Dieu. Nous, le don de Dieu en Christ est gratuit. Tellement gratuit que quelquefois, on néglige cette grâce. Ce matin encore, Dieu nous éclaire de sa lumière. Et nous pouvons penser à cette source de bienfaits qu'est la grâce en Dieu de nous avoir sauvés. Et de prier de tous nos feux pour éclairer notre entourage et le monde avec nous. Gloire à Dieu qui nous aime et la grâce à son Église. Amen.